Pourquoi ce sujet? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi j'avais choisi ce sujet? C'était pas celui que je voulais faire. Et puis, j'en voulais un autre. Puis à chaque fois, c'est celui qui revenait. Bon, alors, je me suis dit, faut obéir, on va prendre celui-là. Moi, ça ne m'intéresse pas comme sujet. Je me suis dit, ça va donner une leçon aux gens, mais non, pas du tout. Donc là, je vais beaucoup méditer sur le sujet. Je vais vous donner peu de passages de la Bible, parce que d'abord, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc voilà. Et puis, ça sera à vous de chercher. Très bien, j'aurai quelques citations par contre. Donc voilà. Alors, orgueil, humilité, un choix, point d'interrogation. Pour vous, quel est le mot le plus important? C'est évident, c'est choix. Un choix. En effet, là dans la vie, en fin de compte, on ne fait que des choix. Tout est choix. Alors, tout est choix. Bon, pas de jeu de mots, hein. D'accord? Bon. Je vais venir. Donc, on fait des choix. Alors, des choix qui sont faciles, qui sont évidents, qui ne posent pas de problème. On fait des choix, il y en a tout le temps. Hein. Est-ce que je mets un peu de sel, un peu moins de sel? Est-ce que je mange ça? Bon, ça, on ne parle pas de cela. On parle des grands choix de la vie. Des choix importants, des choix où il faut prendre une décision et qui vont impacter dans la vie. Dans les choses que je vais te mettre là, tu ne verras peut-être plus, non? Voilà. Alors là, le problème, c'est comment je choisis. Donc voilà, c'est un peu l'introduction. Comment je choisis? Soit par mes sentiments, soit par la réflexion. Soit les deux, en fait. C'est les deux qui font choisir. Hein? D'accord. Les sentiments, la réflexion. Les sentiments, dans le sentiment, il y a plusieurs choses. Sentiment, c'est ce que je ressens, mes sensations, ça c'est le sentiment. Il y a aussi dans le sentiment le côté que le sentiment me donne une connaissance un peu rapide, mais plus ou moins claire. Dans ce que j'ai le sentiment que, voilà, nous. Hein. Et puis il y a le sentiment de la Bible, si vous lisez Philippiens, que nous ayons le même sentiment, c'est-à-dire la même façon de penser. Donc pour le choix, le sentiment rentre en compte. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut surtout dans ces choix, c'est que l'intelligence, la réflexion et l'intelligence se mettent en marche. Mais derrière le mot choix, il y a le point d'interrogation. Est-ce que j'ai vraiment le choix entre les deux? Est-ce que j'ai envie de choisir entre les deux? Est-ce qu'il n'y a pas un non-choix? Hein, voilà. C'est un peu l'introduction. Voilà. Orgueil, humilité. Un choix, point d'interrogation. Alors le sujet, vous voyez, s'est imposé à moi, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, je pense souvent à mon père. Mon père qui était un instituteur, maître des écoles, comme on dit maintenant, qui était aussi un psychologue. Il a passé des tests. Il passait son temps à ça d'ailleurs, les tests des écoles. Il a fallu 3 personnes pour le remplacer quand il a pris sa retraite. Et lui, je l'ai entendu dire, l'orgueil est partout. Bon. Comme ça, voilà, c'était sur la émotive, il devait être très orgueilleux, mon père. C'était comme ça. Voilà, j'ai entendu ça toute ma vie. L'orgueil, tout est à cause de l'orgueil. Voilà. Donc peut-être il faut traiter ce sujet-là. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit. L'orgueil meurt un quart d'heure après l'homme. Donc ça c'est la bonne dite populaire. Hein, d'accord. Et puis Dieu dit, enfin Pierre dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, c'est intéressant. Donc, hein, c'est intéressant d'utiliser ce passage. Voilà pourquoi le sujet a quand même un intérêt. Mais au-delà du sujet, parce que bon, le sujet, je vais le traiter, j'essaie d'être pas trop long, et d'ailleurs, je ne serai pas très long, ça sera très bien. Au-delà du sujet, je veux vous apporter autre chose aujourd'hui. Plutôt une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon de raisonner, une façon de conclure donc les choses qui va nous permettre d'agir d'une certaine façon. J'essaierai de vous montrer ça. Alors comment je vais faire ça? Eh bien... Je vais d'abord vous dire que malheureusement, dans ce que je fais, malheureusement, non, pas malheureusement, je ne sais pas, ouais, ça serait une mauvaise idée, ou plutôt heureusement, j'ai une déformation professionnelle. C'est-à-dire que dans mon travail médical, on a des pathologies, on a des choses à traiter. Alors on voit des gens qui ont des symptômes, la fièvre, des machins, des douleurs, gonflés. Quand on voit ces symptômes, on cherche la cause, ce qu'on appelle l'étiologie, ceux qui veulent des mots précis. On cherche la cause de ces symptômes. Et c'est quand on voit les symptômes et la cause et qu'on met ça ensemble, qu'on fait ce qu'on appelle un diagnostic. Et donc, on va mettre un nom sur la chose, un nom sur le problème, un nom sur la maladie, un nom, mais enfin un diagnostic. Et c'est à partir de ce diagnostic seulement qu'on peut faire un traitement. Sinon, on fait n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu, un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. C'est un petit peu comme ça que je vais essayer de vous faire ça. Maintenant, pour finir l'introduction, c'est ça. Dieu veut nous libérer. Et le passage que vous avez souvent entendu, on le connaît bien, Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Apprenez de moi. Apprenez de moi. Car je suis débonnaire et humble de cœur. Mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Voilà. C'est ça. Dieu veut nous libérer. Ça, c'est la pensée centrale. D'accord ? Alors, comment Dieu veut nous libérer ? Vous connaissez une petite histoire. L'histoire du sac à dos, tout le monde la connaît en rapport avec ça. Mes enfants, vous connaissez ça. C'est ce fameux petit singe qui a son sac à dos bien lourd et qui est au bord du chemin. Et qui voit passer le gros éléphant. L'éléphant qui l'entend, il est en train de souffler, le petit singe. L'éléphant lui dit, viens sur mon dos, je vais t'amener, moi. Et le petit singe monte sur le dos de l'éléphant. Il est là, et l'éléphant entend, qu'est-ce que t'as ? Ouh, qu'est-ce que c'est lourd ? Parce que le petit singe est monté sur l'éléphant, mais il avait gardé le sac à dos. Sac à dos. Donc voilà, et ce que Dieu veut, c'est Jésus veut qu'on se libère de notre sac à dos. Parce qu'il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui nos peines. Il a pris sur lui nos blessures. Il veut qu'on soit libéré. Il veut nous libérer de ce sac à dos. Et nous, très souvent, on reprend le sac à dos. Ça, c'est la première image. La deuxième, elle est de moi. J'en suis très fier. Non, mais attendez. C'est bien. On parlera de la fierté après, vous allez voir. Eh bien, des gens, ils ont tout compris. Ils ont accepté le Seigneur Jésus. Alors le sac à dos qui était rempli de pierres, de marron, noir, de sable, de trucs, importe, pas bon, pourri, etc., ils l'ont remplacé par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des rubis, tout ça. Et simplement, ils ont aussi le sac à dos encore avec eux. Et même si c'est de l'or et des rubis, c'est toujours aussi lourd, le sac à dos. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est bien joli, mais c'est mettre la loi, les obligations, le sectarisme, tout ça. On a un joli sac à dos, il est bien rempli de bonnes choses qu'on connaît, mais on a quand même un sac à dos. Donc on est toujours aussi chargé. Voilà, la religion fait partie de ces choses-là. C'est clair tout ça ou pas ? Et maintenant, je vais vous citer un homme, j'ai pris quelques citations qui m'ont bien intéressé sur le sujet. Alors là, pour conclure un peu l'introduction, on va parler de Winston Churchill, vous connaissez Winston Churchill, peut-être pas les jeunes, hein. Si, je ne dis rien. Non, t'as pas encore fait la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Qu'est-ce qu'il a dit, Winston Churchill ? Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. Voilà ce que dit Winston Churchill. Alors, aujourd'hui, je pense que vous êtes tous comme Churchill, vous n'avez pas envie qu'on vous donne des leçons. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, mais pour que vous appreniez quelque chose, et moi j'espère. Il dit aussi, Winston Churchill, pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Vous êtes prêts à changer, hein ? Bon, voilà, c'est lui qui l'a dit, hein. Je suis texto, comme ça au moins, c'est pas moi, ça vaut mieux d'ailleurs. Et maintenant, bah donc voilà, orgueil. Donc je vais faire deux parties. Je vais voir ce qu'est l'orgueil. Je vais voir ce qu'est l'humilité, et on va conclure. Enfin, vous allez conclure tout seul, après, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orgueil, en fin de compte ?
Ben, il y a des définitions toutes simples. Hein.
C'est une estime excessive de sa propre valeur. Tu vois ce que ça veut dire, ça ? C'est pas trop clair. Hein. Ça veut dire que moi, je me suis un peu plus supérieur à ce que je suis vraiment. Je considère que je suis encore meilleur que ce que j'ai l'impression d'être. Tu vois ? Je me sens vraiment pour quelqu'un. Je suis ce qu'on appelle prétentieux. Tu vois ce que ça veut dire, ça ? C'est de la prétention. D'accord ? Donc, la prétention va entraîner des choses. C'est-à-dire que l'orgueil, fait qu'on est sûr de sa valeur par rapport à soi-même. C'est quelque chose, hein, c'est pas facile d'être sûr de soi déjà, hein, sûr de sa valeur. Mais en plus, on a un autre phénomène, c'est qu'on se sent supérieur aux autres. Alors évidemment, on n'est pas orgueilleux partout. On peut être orgueilleux dans certains domaines. Et dans d'autres domaines, être pas du tout orgueilleux. Voilà. Hein, bon, voilà, c'est pas. Mais l'orgueil général, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça va nous donner comme conséquence ? Eh bien, l'orgueilleux va avoir des esprits qu'on va reconnaître. Il veut dominer. Dominer les autres. Il se vante. Se vanter, c'est-à-dire, c'est à se raconter soi. Beaucoup parler de soi. Bien qu'il y ait des orgueilleux qui ne parlent jamais d'eux-mêmes. Comme disait un poète, je crois qu'il disait le faible, l'orgueilleux faible parle beaucoup de lui, mais le grand orgueilleux ne parle jamais de lui. Après, je ne sais pas trop la citation exacte. Ensuite, cet esprit-là donne aussi un esprit d'arrogance. On est arrogant. Le menton est très haut. On est bien arrogant. Attendez, hein. C'est moi qui suis debout là. Mais aussi, il y a d'autres problèmes. L'orgueilleux, il a un autre problème, il a ce qu'on appelle un caractère d'obstination. Il est obstiné. Et il est souvent vis-à-vis des autres dans la contradiction. On va conclure que tous ceux qui sont dans la contradiction sont orgueilleux. Hein. Mais voilà, dans la contradiction. Alors vous allez me dire, ouais, ben ça c'est d'accord. Ben. Mais dans le monde, actuellement, dans la réussite, tous ces caractères-là ne sont pas forcément négatifs pour le monde. Parce que pour réussir, parfois, ces caractères-là sont bien nécessaires. On les retrouve dans tous nos politiques. Et pour cela, on peut lire le psaume 73 qui dit « J'ai porté envie aux arrogants ». On peut relire ce psaume 73, je vais lire quelques passages du psaume 73, qui est très instructif. Dans le psaume 73, hein, il ne s'en est fallu de peu que mes pieds manquaient. J'ai porté envie aux arrogants, parce que j'ai vu la prospérité des méchants. Il n'y a pas de tourment dans leur mort. Ils n'ont pas part aux peines des humains. C'est pourquoi l'orgueil les couvre. Et il y a toutes les descriptions, mais ces gens-là, ils sont heureux, ils ont tout. Et moi, j'ai rien. J'ai pas autant qu'eux, hein, n'est-ce pas ? Voilà. Donc tous ces caractères-là que je vous ai cités, dans le monde, les caractères parfois nécessaires pour réussir. Enfin, en tout cas, c'est ce que pensent les gens. Pour une certaine réussite. Pour une certaine façon de réussir, on peut avoir ces caractères-là et donc ne pas se rendre compte des conséquences. Maurice Chaplan, un journaliste bien connu du XXe siècle, a dit « L'orgueil ne naît pas de la réussite, il l'engendre par le besoin où il est de se justifier aux yeux d'autrui et aux siens. » D'accord ? C'est pas parce que vous réussissez que vous êtes orgueilleux,
Mais le fait d'être orgueilleux vous pousse à la réussite. Moi, ce qu'il y a là, je sens que ça vous trouble un peu, là, parce que là, l'orgueil ne devient plus forcément ce qu'on a envie de dire. Hein. D'accord.
Mais le problème de l'orgueil, il est sur la deuxième chose. Ça, c'est le deuxième inconvénient de l'orgueil. C'est ce refus de l'acceptation. Il ne peut pas accepter l'évidence. Donc, il n'est pas question d'accepter le péché. C'est évident que tu es pécheur. Mais l'orgueil ne veut pas accepter ça. Il ne va pas non plus accepter le changement. Puisqu'il est sûr de lui. Il ne pourra pas changer. C'est les autres qu'il faut qu'ils changent. Pas moi. Mais comment elle va pouvoir se convertir? Puisque la conversion, c'est justement le plus grand des changements. Et ensuite, troisième refus, il refusera ses torts. Il refusera ses torts. D'abord tort. Donc, il ne peut pas non plus avoir de repentir. Et comme il refusera ses torts, il sera toujours dans cet esprit de vengeance vis-à-vis de tous ceux qui leur font le mal. Étant sûr que c'est les autres qui sont pas fautifs. C'est les autres. Tout vient des autres. Moi, je suis supérieur aux autres. Vous voyez un peu le problème? Là, quand on s'arrêterait là, on dit, bon, bah oui, mais en fin de compte, mais là, et là, on s'aperçoit que là, on ne va plus du tout là. Là, ce côté-là nous éloigne complètement de la possibilité de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis. Vous avez vu, dans le plan, hein, on va voir la différence entre lui et là, on a ce qu'on appelle les besoins de l'orgueil. L'orgueilleux et l'orgueil, pour se nourrir, a des besoins pour exister. L'orgueil cherche plein de choses. Il cherche d'abord la reconnaissance de ses qualités, de sa supériorité. Il cherche à être reconnu. Quand il fait quelque chose, il faut que ça soit reconnu. À partir de là, c'est embêtant. Hein. Je ne sais pas si... je ne peux pas tout développer, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire si vous attendez de la reconnaissance quand vous faites quelque chose. Vous allez être souvent déçu. Vous allez souvent attendre des choses qui ne sont pas valables. Donc vous voyez, vous avez besoin de reconnaissance. Mais après, ça va beaucoup plus loin, bien sûr. Ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils attendent des honneurs. L'honneur. Voilà, l'honneur. À moi l'honneur. Les félicitations. Attends, je sais, les félicitations à l'école, hein, c'est pas un problème. Hein. Tu peux, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais l'orgueil attend les félicitations. Il veut être félicité. Il aime bien, là, quand Marc il va sortir, il aime bien qu'on lui dise: ah, Marc, c'était super, génial, toi. Là, ça il aime bien, tu vois, l'orgueil de Marc, il aime bien. D'accord? Donc voilà. Et il aime bien l'approbation. Et ses besoins, il en a pour lui-même. Ses besoins d'orgueil, c'est pour lui-même. C'est sa nourriture. Il se nourrit de ces choses-là. Il en a besoin. Et puis, là on arrive à des sommes d'orgueil qui paraissent comme ça énormes, mais c'est vrai. Mais on lui doit bien ça, au moins. Avec tout ce que j'ai fait, moi. On me doit bien ça. On me doit bien ça, on me doit. Regarde, vous voyez un peu le discours qu'on arrive à se mettre dans la tête. Hein. Alors il y a l'extrême, hein. S'il n'a pas reçu ça, alors qu'il est tellement supérieur aux autres, et ben c'est ça, c'est que les autres n'ont rien compris. Vous voyez, on arrive à des choses comme ça. Bonjour, pas de problème. On a déjà commencé à un petit moment, mais bon.
l'affection. Et
l'orgueil a besoin d'être nourri. Alors, je fais une petite parenthèse un peu. C'est un peu pourri, cette parenthèse-là. Pour voir, parce que on a vu des symptômes, domination, vantardise, arrogance, etc., etc. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il faut les symptômes. Les symptômes en eux-mêmes ne donnent pas un diagnostic si on n'a pas l'étiologie. Je m'explique. Alors, je vais essayer d'être pas trop technique, mais c'est pour toi, tu m'as posé des questions. Tu sais, tu avais dit si tu pouvais nous renseigner comment on peut faire, etc., pour aider les gens. Bon, hein, je réponds un peu à ta question en faisant comme ça. Et bon, c'est un peu technique, mais je vais essayer de ne pas être trop technique et pénible. Donc, pour faire le bon diagnostic, il faut connaître l'étiologie, la base des choses, et pas se fier qu'aux symptômes. Donc, on fait ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Les médecins, s'ils font 10 ans d'études, c'est pour s'en mettre plein la tête, mais dans des tiroirs bien rangés, pour que quand ils prennent un symptôme, deux symptômes, trois symptômes, le tiroir sort, c'est tel machin, telle étiologie, tel diagnostic. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué en médecine. Très très compliqué. Un médecin qui a un bon diagnostic, c'est irremplaçable. C'est une grosse tête. Une tête non seulement grosse, bien remplie, mais super bien rangée. Ce qui n'est pas tout bien donné tout le monde. Donc par exemple, quelqu'un qui se vante n'est pas forcément un orgueilleux. Non, je vais être simple. Hein. Il peut être simplement mythomane. C'est une maladie. Rien à voir avec l'orgueil. Tu comprends? Par exemple, celui qui est toujours en contradiction, toujours dans la contradiction et qui est obstiné, et qui pense que c'est toujours les autres qui leur doivent quelque chose. Ça peut être de la paranoïa. Ensuite, l'arrogance. Cette arrogance-là peut cacher beaucoup de choses. La peur. Le manque d'amour. Voilà. C'est ça, l'étiologie. Hein, on a des symptômes. Arrogance, hein, comme un chien qui arrive, la boit. Il vous aboie dessus. Qu'est-ce qu'il a, le chien? Il a peur ou il est agressif? Pourtant, ils aboient, ils aboient. Il y en a qui ont peur, ils aboient. Il y en a qui sont agressifs. Ils aboient aussi. Le symptôme est le même, mais l'éthologie n'est pas la même. La pathologie ne va pas être la même chose. Voilà. Donc, je ferme ma petite parenthèse. Ça te va? Voilà, c'était tout pour montrer que, hein, voilà, il ne faut pas confondre, voilà, tel un machin, il est comme ça. Donc, voilà, c'est de l'orgueil. Et c'était ça un peu le problème, à mon avis, de mettre de l'orgueil partout. Alors que ce n'est pas partout l'orgueil. Mais par contre, quand il mène à ça et quand il a des besoins, c'est de l'orgueil pur et dur. Alors vous comprenez une chose, c'est simple. Dieu ne peut que résister aux orgueilleux. Il n'a pas le choix. C'est par amour que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que s'il ne résiste pas à l'orgueilleux, qui a besoin de plein de choses et qui refuse d'accepter, jamais l'orgueilleux ne viendra au Seigneur. Jamais l'orgueilleux va se convertir. Jamais il ne sera sauvé. Donc quand vous lisez maintenant la phrase « Dieu résiste aux orgueilleux », n'oubliez pas la suite. Il donne la grâce aux humbles. S'il résiste à l'orgueilleux, c'est pour pouvoir lui donner la grâce. D'accord? Voilà. C'est la façon dont je voulais vous présenter ce sujet. Donc voilà. Il ne peut que résister aux orgueilleux. Et Dieu n'est qu'un Dieu d'amour. Donc il fait tout par amour pour amener les hommes à lui. Pour les libérer, comme on en disait tout au début, de cette espèce de sac à dos. S'il est rempli de pierre ou qu'il soit rempli d'or, il sera toujours aussi lourd. Alors, pour illustrer ça, justement, que Dieu ne peut résister qu'à l'orgueilleux pour lui montrer le bon chemin, j'ai pris une citation de Charles Churchill, cette fois,
ne vais pas le faire de Augustin, hein. Un autre. Charles Churchill qui dit « L'orgueilleux aimera mieux se perdre que de demander son chemin. » Vous voyez un petit peu là, c'est exactement ça. Hein. L'orgueilleux, il reste loin de Dieu. Il préfère se perdre que d'avoir cette simplicité. Oui, je me trompe. Oui, je le suis. Oui, il faut que je change. Hein, comme on disait au début. Et maintenant, on va parler d'un sujet beaucoup plus simple, hein, l'humilité. Est-ce que vous avez des questions ? Deux, hein. Si vous voulez, vous les noter quelque part et les poser à la fin, c'est pareil. Hein. Ça ne vous dérange pas. Hein. Plutôt à la fin.
Bon.
Alors, l'humilité. D'abord, on va faire une définition d'humilité. Qu'est-ce que c'est ? Bon, moi, j'ai pris les dictionnaires. Hein, je vous dis tout de suite. État d'esprit ou une attitude de quelqu'un qui se considère sans indulgence. Voire, il est porté à se rabaisser. Et rabaisser ses propres mérites. Donc, comme l'orgueil, il y a deux parties. L'humilité, c'est vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. D'accord ? Et alors, vis-à-vis de soi-même, c'est se considérer sans indulgence. C'est-à-dire se considérer tel que l'on est. Et je pense que c'est vraiment... La parole est très claire de ce côté-là. Avoir une juste valeur de soi-même. Romains 12. Une juste valeur. Pas trop haute, pas trop basse. Une juste valeur. C'est important, ça. Psychologiquement, c'est très important. Alors, on n'a pas tout des petits sa juste valeur. Sa juste valeur, on la connaît au fil du temps. Elle peut changer, elle peut s'améliorer d'ailleurs. Hein. On peut améliorer des choses, on peut changer. Mais sa juste valeur, elle n'est pas toujours facile à trouver. Ensuite, on est très influencé par son éducation. Si vous avez été traité d'imbécile toute votre vie pendant votre jeunesse, vous allez avoir du mal à trouver votre vraie valeur. Hein. D'accord ? Si vous avez été poussé au pinacle, vous aurez peut-être aussi du mal à trouver votre vraie valeur, dans l'autre sens. Hein. Ouais, donc c'est, voilà. Puis après, ça n'empêche pas d'avoir de soi-même chercher sa vraie valeur devant Dieu. Très important. Mais, et ça j'insiste, c'est vraiment dans l'humilité, on ne peut pas marcher dans l'humilité si on n'a pas ce premier point. Parce qu'après, ce n'est plus de l'humilité qu'on va avoir, hein, c'est autre chose. Hein. L'humilité, c'est vraiment se connaître. Je connais mes limites, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je suis, je sais tout ça. Alors je peux le faire par des psychologiques, mais je peux le faire par la parole, qui me montre des choses. Et puis je le fais par l'expérience, par les autres, par ce qu'on me dit. Et c'est important de se connaître. Parce que chacun de nous a reçu des dons. N'est-ce pas, on le sait ça. On a tous des dons. Dons, c'est vrai que je fais une parenthèse, dons, on a toujours l'impression que c'est Mozart. Bon, à 5 ans, je fais du piano. Non, c'est pas ça un don, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un don, ça veut dire que quelque chose nous a donné, Dieu nous a donné quelque chose qui nous rend capable de faire ceci ou cela, bricoleur, pêcheur, je sais pas moi, il est manuel, il est intellectuel, il n'y a rien du tout, voilà. On sait pas. Mais c'est ça les dons, hein. C'est pas toujours, on imagine toujours des souris spectaculaires, pas du tout, hein. C'est des trucs simples. Mais un don, ça se cultive. Ça, c'est un autre sujet. Donc, juste valeur de soi-même, très important. Mais, l'humble, il a une autre chose. C'est que vis-à-vis des autres, il a aussi une juste valeur des autres. Il regarde les autres, il leur donne leur juste valeur. Première chose, dans juste valeur, il y a deux choses. Il y a valeur. Donc les autres ont de la valeur. Les autres valent quelque chose. J'aime bien le Philippiens 2. Quand on voit l'humilité dans Philippiens 2, ça veut dire regarder ce qu'ont les autres. Hein ? Je vous dis exactement le passage. Philippiens 2. Vous avez dit que je n'ai pas beaucoup de passages, mais oui, j'en sais pas beaucoup. Hein. Je laisse à vous de les rechercher. Voilà. Que rien ne se fasse par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que, dans l'humilité, l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Alors, si on s'arrête là, bon, les autres sont plus que moi, tout. Mais non. Parce que ça veut dire quoi ? Chacun ne regardant pas ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. L'autre a quelque chose que moi je n'ai pas. On est tous différents, on est tous des individus différents. Donc l'autre a forcément quelque chose que moi je n'ai pas. Et c'est ça que Dieu me regarde de voir. Ça, ce que tu as, que moi je n'ai pas. Voilà. Donc une juste valeur de moi, mais une juste valeur des autres. Ils ont des qualités les autres. Et puis vous savez quoi ? Ils ont aussi des défauts. Ça, la réalité. Regardez les choses en face. Les gens en face. Sachant que les autres, j'en ai besoin. Non pas comme l'orgueilleux pour être au-dessus, pour qu'ils soient en bas, mais j'en ai besoin parce que c'est l'égalité entre eux. C'est-à-dire, est-ce que vous donnez aux autres le droit à la différence ? Bon, évidemment, les hommes et les femmes vont dire que c'est très différent de ça. Est-ce que l'on donne aux autres le droit d'être différent ? Est-ce que l'autre a le droit de venir à toutes les réunions et l'autre à quatre temps en temps ? Ben non, pas bien. Puis en plus, j'ai plein de versets pour te dire que c'est pas bien. Est-ce que l'autre a le droit de se lever tard ou il faut que je se lève tôt parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ? Est-ce que l'autre a le droit de s'amuser pendant que moi je travaille ? Est-ce que l'autre est différent de moi ? Est-ce que j'accepte ces différences ? Et ça, c'est le début. Accepter la différence. Donner droit à la différence. Et vous savez comment on fait ? Eh bien, il faut qu'on ne soit pas la référence. Si je suis la référence des autres, et qu'ils n'ont pas le droit à la différence. Car déjà, moi, je ne me trouve pas génial, donc si tu ne fais pas au moins comme moi, laisse tomber. Donc, on n'est pas la référence. Je ne suis pas une référence pour les autres. Donc, voilà. Vous voyez en filigrane ce que c'est que tout ça. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit « Je suis humble de cœur ». Parce que pour ça, il faut aimer. Tout simplement, c'est de l'amour pour l'autre. Si on n'a pas d'amour pour l'autre, c'est impossible de faire ça. Si Dieu ne nous a pas donné l'amour de l'autre, et je dis l'autre en général, hein, on ne peut pas avoir ces caractères-là. Non, j'avais fait une petite aparté, parce que il y a, dans humilité, il y a des mots qui ne sont pas loin, c'est humiliation et s'humilier. Alors, juste pour justement distinguer un peu ça, l'humiliation, c'est quelque chose qu'on subit de l'autre. On est humilié. Et cette humiliation produit de la honte. Rien à voir avec l'humilité. Rien à voir. C'est l'humiliation due, subie. L'humiliation est subie parce qu'on veut bien la subir. Donc c'est un peu compliqué. Comment dirais-je ? C'est compliqué là, à voir ce que... Je vais vous citer une citation. C'est Alain Ayache. Vous connaissez Ayache, non ? le gros bagage. Il n'y a pas de honte à perdre, Waishwe. La honte. La seule qui puisse nous faire honte est d'être inférieur à nous-mêmes. Que c'est, si vous avez compris la phrase. Hein, ouais, c'est ça. D'accord ? Donc cette juste valeur de nous-mêmes, et puis voilà, être inférieur à nous-mêmes, voilà. Ça, c'est la seule honte qu'on peut avoir. Donc l'humiliation qu'on subit des autres, de la part des autres, on la subit parce que quelque part, excusez-moi, on le veut bien. On n'est jamais obligé de subir l'humiliation. On peut être humilié par quelqu'un, mais on ne la subit pas, on la vit. Bon, je m'arrête là, si vous avez des questions, vous me les posez. Après, il y a la deuxième chose, c'est s'humilier. Et c'est la suite du verset dans la pierre, hein. Humiliez-vous donc devant Dieu. S'humilier, ça veut dire s'abaisser, cette fois. N'est-ce pas ? Rien à voir avec l'humilité. S'humilier, ce n'est pas être humble. C'est s'abaisser volontairement devant Dieu. Comme le Seigneur s'est humilié, allant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même. D'accord ? Et nous, on est l'orgueilleux est invité à s'abaisser devant Dieu pour justement enlever de lui cet orgueil qui l'empêche de s'approcher de Dieu et de bénéficier de sa grâce. Voilà. D'accord ? Et ensuite, donc, vous voyez, l'orgueil, lui, il a des besoins. Alors que l'humilité libère. La liberté. Parce qu'en effet, on avait vu que l'orgueilleux avait plein de besoins. Il a besoin de reconnaissance, il a besoin des honneurs, il a besoin de tout ça. Mais l'humble, lui, l'humble ne cherche pas. L'humble, il a. Il possède. Il est, verbe être. Et il est inébranlable. Qu'est-ce que vous voulez faire contre quelqu'un d'un ? Il est inébranlable. Il est fort, il est sûr, il est libre. On est libre quand on est humble. Car rien, c'est une force. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, apprenez de moi, je suis humble de cœur. Le Seigneur humble, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, Dieu fait homme, il dit, je suis humble de cœur, prenez de moi. Prenez cette humilité que moi je vous enseigne parce que c'est la liberté, c'est la force, c'est une force. Alors ces choses-là, ça s'acquiert par l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, de comprendre ça. Par la foi, l'humble doit vivre de foi. On ne peut pas être humble sans la foi. Et puis par l'amour. Enfin, l'humble, l'humilité nous rend heureux. Pourquoi ? Parce qu'on est reconnaissant. Reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Reconnaissant de ce que je suis. Au lieu de me dire, ah, si seulement j'avais ça de plus, si seulement, si seulement, si seulement. Non, je me regarde comme je suis et je dis, merci Seigneur. J'imagine toujours cette image qu'on m'a racontée, je n'étais pas là. Mais cette petite fille trisomique qui se regarde dans la glace et qui dit, Seigneur, merci de m'avoir fait si jolie. Vous comprenez ? Parce qu'elle était ce qu'elle était. C'est pas qu'elle ne se rendait pas compte, hein, mais voilà. Merci. Reconnaissant, parce qu'il a une juste valeur de lui-même. Et cette valeur lui est donnée par Dieu lui-même, cette juste valeur. Et en plus, il est aussi heureux pour les autres, de ce que ont les autres, puisque justement les autres n'ont quelque chose que je n'ai pas. Donc on est heureux d'avoir les autres, pour les autres. On est heureux d'avoir nos frères et sœurs avec nous. Parce qu'ils vont nous apporter quelque chose. Ils sont nos différences, ils sont nos complémentaires, ils sont tout. Et ils me permettent une chose énorme, c'est de mettre en œuvre l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Alors pour moi, l'humble vit la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'il vit sa vraie vie, sa vraie destinée. Et je vais vous dire une chose, pour moi, c'est la vie idéale. Alors, on va arriver à la conclusion. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai mis un point d'interrogation après choix. On ne va pas choisir. Qu'est-ce que je vais aller choisir entre me faire du mal ou me faire du bien? Excusez-moi, mais là, alors, au point de vue problème, hein, c'est un problème psychologique, là, si on cherche à se faire du mal. Hein, c'est qu'on n'a pas compris. Mais si on n'a pas compris ce que c'était que l'orgueil, peut-être que si certains orgueilleux, tout ça, comprenaient, ça, ils arriveraient à aller au Seigneur. Je ne sais pas, il me semble. Hein, quand on a compris ça, on a... On dit Seigneur, mais oui, tu m'as ouvert un chemin idéal, un chemin fantastique, un chemin de liberté, un chemin d'assurance, un chemin dans lequel je ne peux pas me perdre. Je ne pourrais pas me perdre, alors que l'autre, enfin, j'ai toutes les chances de m'y prouver. Hein. Je ne vais jamais y arriver en plus. Ce ne sera jamais assez. C'est toujours un assoiffé, n'est-ce pas ? Les proverbes en disent assez pour ça. Donc voilà, conclusion. Première conclusion, j'en ai fait trois conclusions. Dieu nous aime. C'est ça le problème. Alors il y avait je vais vous citer deux autres citations, tiens, que je vais vous faire. À la fin de cette humilité-là. Pour conclure l'humilité, je fais deux citations qui ne sont pas de moi, comme ça c'est bien. C'est Pierre Bourgault qui a dit « La confiance en soi est faite d'humilité. » C'est pas de moi, c'est ça qui est bien. La confiance en soi, en moi, est faite d'humilité. Et Marie von Eber-Aschenbach, une autrichienne, a dit « Texto. » L'humilité rend invulnérable. Donc voilà, les auteurs ont écrit là-dessus. C'est des 18e siècle, souvent il y a des. Mais là, il y a des contemporains. Hein. La VH, elle n'en pas compte. Donc la conclusion, Dieu nous aime. Quand on aime quelqu'un, on a envie de son bien et de son bonheur. Et quand on aime quelqu'un, puisqu'on vient de le voir, Jésus a dit « Apprenez de moi, je suis humble de cœur ». Donc qu'est-ce qu'il dit? Il nous prend « tel que je suis », comme dit le cantique. « Tel que je suis ». Attends, il faut que tu changes d'abord, et que tu t'habilles différemment, tu as un travail, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, puis tu viens 36 fois à la réunion, surtout que tu as tous les matins entre 8h et 9h. Après, on verra. Non. Tel que je suis. Et qu'est-ce qu'il veut nous donner? Le salut, la paix, la joie. Et bien plus, tous les jours. Après, c'est à nous de découvrir ça. Hein. C'est à nous de chercher ces choses-là. Parce que, deuxième chose, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a deux inconséquences. On est à son école, et on va commencer dans notre vie comme des petits enfants. Après, on va être des jeunes gens. Après, si on continue à progresser, on va être des adultes, voire des pères ou des mères, en tous les cas des adultes, des parents, peut-être. Alors attention, parce que si vous lisez dans l'hébreu, il y en a qui sont venus en arrière et qui ont commencé à téter leur biberon. Très dommage, hein ? Mais Dieu, en étant à son école, il veut nous faire progresser. Mais comme vous avez vu, on grandit, donc ça ne vient pas du jour au lendemain, tout s'apprend, il faut persévérer. Deuxième chose, si nous sommes enfants de Dieu, histoire de ne pas vous dévaluer, n'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus a dit dans le sermon sur la montagne en Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est. La lumière du monde. Alors, allons-y. Hein. Brillons, les enfants, brillons. Vous avez vu les néons, là, des publicités, eux, ils y vont à Carrefour, ça vous prend comme ça. Hein. Ben, nous faire. Hein. Faisons aussi la publicité. Brillons. Et pour finir, j'aime bien ce verset de Jacques. Demandez à Dieu qui ne fait pas de reproches. Jacques 1. Dieu ne fait pas de reproches. Alors, sachons demander, quand on n'arrive pas à faire des choses, sans jamais nous lasser. Jamais, jamais. Il n'y a pas d'âge pour se lasser. Il n'y a pas d'âge pour continuer à demander. Il n'y a pas d'âge pour dire demain, je continue. Je ne suis pas arrivé aujourd'hui. Les échecs doivent servir à rebondir. Il faut chercher encore et toujours. Matthieu 7, toujours dans le sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il dit, Seigneur ? C'est à celui qui frappe que je vais ouvrir. Hey, tu ne frappes pas, je ne vais pas t'ouvrir. Hein. C'est celui qui cherche qui va trouver. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras rien du tout. Donc il faut chercher. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça sera à vous de chercher. Moi, je ne fais qu'ouvrir des portes, après, c'est à vous de voir ce qu'il y a dans la pièce. Et ensuite, surtout, les échecs doivent nous servir à grandir. Pas autre chose. La vie est faite d'échecs. Les gens qui ont fait des grandes choses ont commencé par faire beaucoup d'échecs. Et c'est grâce aux échecs qu'ils ont fait des grandes choses. Mais ils ont rebondi après les échecs. Ils ne se sont pas arrêtés. Donc voilà, c'était ma conclusion sur ce Dieu qui veut qu'on soit libre, qui veut nous libérer. Alors maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous a donné envie d'être quelque chose, d'être humble. Si vous avez mieux compris ce que c'était que l'orgueil, pour ne pas le mettre partout à toutes les sauces. Dommage, on se prive de choses, hein. C'est quoi, c'est pas de l'orgueil, c'est autre chose. Par contre, des fois on voit pas que c'est de l'orgueil, c'en est. Et puis, est-ce que vous êtes persuadé que vous pouvez vous passer de l'orgueil et être humble comme le Seigneur? On est appelé à ça, il n'y a pas de souci, on peut y arriver. Parce que Dieu ne nous montre jamais des choses trop compliquées pour nous, à notre niveau. Voilà. Alors maintenant, je suis tout ouïe sur les questions et je vais essayer de répondre. Il n'y a pas de questions idiotes, mais je n'ai pas forcément les réponses à tout.
J'ai une question. Oui. Je veux savoir si la fierté, c'est l'orgueil.
Ah.
Parce que je crois que tu devais parler de la fierté quand on a travaillé.
La fierté. Alors, il y a deux choses. Hein.
Tu répètes la question parce que on l'a pas entendu au fond.
Madame, tu viens de micro, il va répéter.
Je veux savoir si la fierté, c'est l'orgueil.
Alors, il y a plusieurs volets dans la fierté. La fierté, il y a un volet qui est naturel et normal. J'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose, j'ai mon embrayage qui a pété, et là je ne sais pas trop bien faire, mais je démonte tout et tout, et puis hop, je répare, et ça marche. Eh ben, je suis fier de moi. Ça, c'est une fierté de quelque chose. J'ai accompli quelque chose. Je suis content d'avoir fait quelque chose. Et ma foi, c'était dur. Je me suis donné de la mal, je suis fier de moi. Fier d'avoir fait ça. Et tu vois, j'ai fait deux erreurs. Je suis fier de moi. Ça, c'est pas bon. Mais je suis fier d'avoir fait ça. J'ai le droit d'être content. Maintenant, à qui je donne le mérite de ce qui m'arrive, de ce dont je suis fier. Qui a le mérite? Si je commence à dire, vous avez vu un peu, balèze le gars, hein? Là, oui, parce que c'est à moi que je donne le mérite. Et je me reviens d'un seul coup, oui. Tu me donnes une valeur supérieure à ce que je dois être. Je ne suis plus dans ma juste valeur. Et quel est mon gros défaut? C'est que Seigneur, merci d'avoir réussi à démonter mon embrayage et de les remonter. Merci. Adieu, l'honneur. Adieu. Bien merci. C'est terminé. Donc, tu vois les deux volets de la fierté. Donc la fierté, en effet, c'est une bonne fierté, une fierté légitime, mais attention où on va. J'ai répondu à ta question. Alors oui, bien sûr. Marie von Ebner, E-B-N-E-R, von Ebner Eisenberg.
Bon, bah, tu connais droit.
Tu vois ça sur Internet, hein. Ebner. Alors comment ça s'écrit? Eisenberg. Voilà, c'est Eisenberg. Eisenbach, on dirait les Allemands. Eisenberg. Une autrichienne. Romancière autrichienne. Je suis une clarté phénoménale. Je vous ai bien endormi, les gars. Alors, oui. Il n'y a pas de mauvaise question, je viens de le dire.
Concernant l'orgueil, bon, tu as donné un certain nombre d'éléments, mais peut-être qu'on a de la peine à s'en rendre compte soi-même, même avec les éléments que tu as donnés. Parce que voilà, on a des systèmes de raisonnement qui font que voilà, on pense qu'on a, on a des droits, même parce qu'on n'est pas. Enfin, c'est pas parce qu'on est chrétien, par exemple, qu'on doit se faire écraser par tout le monde, par exemple. Donc voilà. Est-ce que donc on a besoin des autres? Et alors, maintenant, concrètement, comment on peut s'entraider si on tombe dans ce piège-là sans s'en rendre compte? Voilà, c'est une question que je pose. Avant de, la deuxième question, c'est sur l'humiliation. J'ai quand même un peu étonné. Sur la, le fait de subir certaines choses. Je prends un exemple très simple. Toutes les jeunes filles au Nigeria qui sont violées et emmenées de force, etc. On appelle ça comment? Et est-ce que faire autre chose que subir ce qu'on leur fait vivre? Alors peut-être que ce n'est pas dans ce sens du tout. Alors, c'est pour ça que je voudrais. Donc, deux questions. Merci.
Merci d'avoir posé la question. Deux questions. Alors la première, c'est sur l'orgueil. Comment reconnaître son orgueil? Tu veux dire, on n'arrive pas forcément à reconnaître ce qui est de l'orgueil chez nous, hein, par exemple. C'est ça que tu voulais dire, plus ou moins, hein. Comment le reconnaître? Voilà. Bon, je vois la question. Comment reconnaître l'orgueil chez soi? C'est facile, dans le sens où ça va être par rapport aux autres. Est-ce que je veux être plus que les autres? Parce qu'attends, il nous faut des dirigeants. On est d'accord, il faut des gens qui dirigent. Des pasteurs. Bon. Donc il faut des gens qui, quelque part, extérieurement, sont au-dessus des autres. Mais ce n'est que de l'extérieur. Si la personne qui devient pasteur se croit meilleure que ses ouailles, mais c'est un très mauvais pasteur, il faut qu'il arrête. Il faut qu'il change de métier. Tout de suite. Car il va faire des dégâts. Oh, bien sûr, s'il a un grand charisme, il va faire des foules. Ça, c'est clair, et parce qu'il y en a toujours des gens qui ont besoin de se fier, ça, c'est autre chose. Mais pour lui-même, il fait des dégâts. D'accord ? Donc ça, c'est par rapport aux autres qu'on voit tout de suite si on a de l'orgueil. C'est comment on se positionne. Est-ce que je réponds un petit peu à ta question? Deuxième volet, je crois qu'il ne faut pas lutter contre l'orgueil. La parole est claire là-dedans. La parole est claire. J'aime beaucoup le passage de Philippiens 4, verset 7, je l'ai souvent cité. Occupez vos pensées de bonnes choses. Il n'est pas dit chassez les mauvaises. Si vous les occupez de bonnes choses, il n'y aura pas la place pour le reste. C'est la parabole de cet homme qui avait un démon. Le démon est parti, a été chassé, mais il n'a rien mis à la place. Il y en a sept autres qui sont devenus plus méchants que lui. Et c'est pire que tout. Il ne faut pas mettre du vide dans sa tête. Donc, il ne faut pas lutter contre l'orgueil. Il faut simplement être humble. Et on ne peut pas être orgueilleux. Est-ce que je réponds à ta question? Tu comprends? C'est dans ce sens-là que j'aimerais qu'on prenne la Bible dans ce sens-là. On a trop fait, les années d'avant, une lutte de la chair. J'avais l'impression de mettre mes gants le matin, puis attention, je tape sur la chair, sinon ça... Non! Cette lutte-là, c'est le Seigneur qui l'a gagnée. C'est lui qui a remporté la victoire. Il a dit, j'ai remporté la victoire. Maintenant, il faut que vous rentriez dans ma victoire. Donc, il faut chercher ces caractères d'humilité. Me dire, mais voilà, c'est ça que je veux. Rechercher ces caractères-là. Et je n'aurai pas besoin des autres. Je n'aurai pas besoin de l'ego. Voilà, ça c'est pour moi, c'est le plus important. Aller vers ce qui est bon, et le mauvais n'aura pas de place. Après, maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut faire un diagnostic. Tu as des symptômes. Il faut voir si les symptômes sont de l'orgueil ou si c'est autre chose. Tu peux être orgueilleux extérieurement comme ça, les gens vont te dire, ou toi, t'estimer orgueilleux, parce que tu as une carence quelque part. Parce qu'il te manque quelque chose. Et donc c'est l'étiologie qui est importante. Ça, pourquoi tu es comme ça? Donc toi, tu es médical, donc tu peux te poser la question. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui m'a fait mon père? Les autres. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que, voilà, j'ai besoin d'être comme ça. Parce qu'il n'y a aucun besoin d'être orgueilleux. Un chrétien n'a aucun besoin d'être orgueilleux. Au contraire, il a tout le plaisir d'être humble. Je sais ce que je suis clair. Drop D. Ça, c'est la première question, hein, mais je n'ai peut-être pas répondu à ta question encore. Vas-y, n'aie pas peur. Pousse-moi dans mes retranchements, il n'y a pas de souci. Non, non, mais t'as raison, hein. Y aller, non, non, mais...
Non, parce que.
Il a tort, mais...
Non, mais on se rend compte que, donc, avec un texte de Colossiens 2, là, verset 23, il est parlé de ces personnes qui veulent accomplir certaines règles, qui
se gèrent en quelque sorte,
qui s'est marqué. Donc, il y a une apparence de sagesse, en dévotion volontaire, en humilité, qui n'épargne pas les corps, lui rendant un certain honneur pour la satisfaction de la chair. En réalité, on peut. Même pour soi-même, se faire illusion avec certaines attitudes, et finalement, c'est une manifestation d'orgueil. C'est là où c'est difficile de découvrir en soi-même. Et finalement, si on se fait du mal en faisant comme ça, on n'a pas envie que ça dure longtemps, mais on ne trouve pas toujours
le... Je n'aurais pas dit orgueil dans ce sens-là. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement une satisfaction de la chair. C'est-à-dire qu'ils se font plaisir à eux-mêmes. Au lieu de faire plaisir, ils font pas ça pour Dieu, ils font pas ça pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul dit, moi je cours la course comme si je devais remporter le prix. Donc je mortifie mon corps, je fais attention, comme un athlète, je vis de régime, je fais gaffe, je fais des exercices, donc des exercices spirituels bien sûr, pour pouvoir remporter le prix. Et c'est ça, lui il fait ça pour remporter pour Dieu. Alors ces gens-là, extérieurement, ben, c'est super, hein, super, ils sont là, extrêmement, c'est des gens parfaits, on leur donne le bon Dieu sans confession, comme on dit dans l'Église catholique. Hein, voilà. Mais, au fond, ce qu'ils ne se rendent pas compte, peut-être eux-mêmes, c'est qu'ils font ça pour eux, et non pas pour Dieu. C'est pas de l'orgueil, là. C'est un... Voilà, ils n'ont pas, pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris, mais ça ne veut rien. Et ce qu'il veut dire par là, que je reprends mon exemple du sac à dos, c'est pas la peine, parce que si vous y mettez de l'or et des bijoux, il est toujours aussi lourd. C'est ça les obligations. C'est ça les obligations. Pour moi, c'est ça, c'est la religion, les obligations. C'est... Tout ça, c'est pas le... Pour moi, c'est pas le chemin que Jésus veut nous faire comprendre. Lui, c'est un chemin de liberté. Mes commandements sont pas pénibles. Vous êtes en train de m'emballer. Si je suis en train d'emballer, c'est peut-être que vous n'êtes pas dedans. Vous voyez, hein? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Il y a des efforts à faire, il faut se... Bien sûr. Et puis là-haut, la vie n'est pas faite d'un linéaire. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. L'essentiel, c'est que la moyenne monte. C'est tout. Mais c'est comme ça. D'accord? Ça, c'est pour ta première. Je réponds à ta deuxième question. D'accord? L'humiliation. Alors, je n'ai pas dit que l'humiliation, ça n'existait pas. Je n'ai pas dit qu'on n'humiliait pas les gens. Que d'autres n'humiliaient pas les gens. Ça, je ne l'ai pas dit. Non, ce que j'ai dit, c'est que quand on est humilié, on n'est pas obligé de subir dans son psychisme l'humiliation. On peut s'en sortir.
par Dieu.
Tu nous dis un cas comme ça, il y a des histoires comme ça, de femmes qui ont été violées, violées, encore violées, etc., par rapport à dans des pays, et qui s'en sont sorties, parce qu'elles n'ont pas subi les choses, mais elles les ont vécues. Alors, il faudrait que tu lises des livres là-dessus, oui. Ou que tu aies le témoignage de personnes comme ça, voilà. Maintenant, c'est des cas excessivement difficiles, hein. Excessivement difficiles, hein. Comme ceux qui ont subi qui ont été brûlés vifs, qui ont été jetés au lion, qui ont été... Ça nous dépasse, hein. Moi ça me dépasse. Je me suis souvent posé la question, comment réagirais-je? Je suis souvent, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà posé, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Si demain on est martyrisé, qu'est-ce que je vais être ma réaction? J'en suis pas sûr du tout à 100%. Voilà. Oui. Question. Voilà. Madame Pontal.
Simplement, est-ce que tu peux dire pourquoi tu as parlé d'humiliation? Il y a un rapport avec l'humilité?
C'est pour pas qu'il y ait confusion. Voilà. Pour pas qu'il y ait confusion. On confond souvent humilité et humiliation. Se mettre plus bas que l'autre. Voilà. Et comme disait Philippe, avoir le dos rond, voilà. Ça c'est l'humiliation, mais c'est pas l'humilité. L'humble, il respire. Il a la poitrine sortie, il n'est pas comme ça. Du tout. L'humilité, ça rend invulnérable, comme a dit la poétesse. Invulnérable, on est libre. L'humilité, ça rend libre.
Bien sûr, puisqu'on ne peut plus être blessé dans son
orgueil. Voilà. Absolument. Bébé, voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui, le micro pour le monsieur du premier rang, là.
Monsieur du premier rang, il aimerait revenir sur la question d'un autre monsieur du premier rang, celle de David. Et il nous a parlé de la fierté, et tu as expliqué que la fierté, c'est négatif, parce que ça devient de l'orgueil, car on est fier de soi-même et de ce qu'on a fait. Alors, est-ce que tu pourrais développer de l'autre côté la fierté quand c'est quelque chose de tout à fait positif? C'est quand on est fier des autres, et en particulier pour les chrétiens, être fier de notre Sauveur Jésus-Christ. Je crois que l'apôtre Paul, quand il disait « se glorifier en Christ » ou « en la croix de notre Seigneur », être des ambassadeurs, c'est une image généreuse. Hein, ce n'est pas l'ambassadeur orgueilleux, mais c'est l'ambassadeur qui est fier de son roi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif pour nous?
Oui, tout à fait, tu as raison. Et ça rejoint bien, en effet, sa question, les deux sont complémentaires. La fierté, quand on a la fierté légitime, c'est celle qui nous rend fiers d'avoir accompli quelque chose. Et là où on devient de l'orgueil, c'est quand on ne met pas Dieu à sa place dans ce qu'on a fait. Et comme tu dis, on est fiers d'être sauvés. On est fiers d'un jour d'être sauvés. On est fiers parce que c'est par rapport à Dieu, parce qu'on rend la gloire à Dieu, parce qu'on rend la reconnaissance à Dieu. Hein? Imagine que je sois une femme, je suis fier d'avoir plein d'enfants.
Et un homme aussi.
Oui, un homme aussi peut-être. T'as raison. Hein? D'avoir plein d'enfants. Voilà, j'ai pu enfanter plein d'enfants, j'en suis très fier. Voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais non. Merci Seigneur d'avoir donné des enfants. Est-ce que je réponds à ta question? Toi, à chaque fois que tu as cité, tu as mis Dieu. Et forcément, dès qu'on met Dieu, la fierté est bonne. Parce que c'est la fierté. Par contre, on peut être fier de quelqu'un, on peut être fier de ce qu'a fait son frère. Mais à chaque fois qu'on va être fier de l'autre, si je vais lui dire, wow, c'est super ce que tu as fait, t'es vraiment génial, oui, je fais comme disait un frère, je ne sais pas ancien, qui me disait, quand il sortait de la réunion, il y a une sœur qui est venue le voir, il dit, oh, ce que vous avez dit, c'est formidable. Il répond, Satan me l'a déjà dit. Bon, hein, d'accord. Voilà, parce qu'il a senti qu'il avait un ego tellement développé qu'il allait être fier et orgueilleux. Voilà, parce que, voilà, on s'attribue le mérite. Dès qu'on s'attribue le mérite complètement, eh ben, on est fier et là, on devient orgueilleux. Mais, on a quand même des mérites. Parce qu'il faut se forcer à faire des choses. Donc, il y a un certain mérite. Mais voilà, cette fierté, à partir du moment où on n'arrive pas à mettre Dieu au milieu, on a mis un pied dans l'orgueil et si on continue, on met les deux. C'est mon avis. Mais peut-être qu'il n'est pas partagé par tout le monde. Attends, on n'a pas de. J'ai pas ton micro, j'ai pas ton micro.
Le sens du mot fierté.
Être fier de soi?
Non, le mot fierté.
La définition d'un mot fierté. Ouais. de content d'une œuvre achevée. À mon avis, c'est une des définitions, je ne l'ai pas là. Hein.
Satisfaction.
Oui, satisfaction. Content. Mais il y a plusieurs fiertés, parce qu'il y a la fierté vis-à-vis de ton fils, vis-à-vis de tes enfants, la fierté patriotique, la fierté nationale. Il y a pas mal, à mon avis, tu regardes un missionnaire, il y a toute la liste, mais je ne sais pas, moi, je ne suis pas un missionnaire.
Est-ce que la fierté ne veut pas finir par devenir un orgueil ?
Si, c'est ce que je disais, oui. À partir du moment où on ne met pas Dieu au milieu, c'est... à partir du moment où on ne comprend pas qu'il y a Dieu derrière, c'est de l'orgueil. Et c'est pour... il est là le problème. C'est pour ça que l'orgueil a des besoins, l'orgueil... ça nous éloigne de Dieu, tout simplement. C'est pour ça que Dieu résiste à l'orgueilleux, parce que ça nous éloigne de lui. Et on ne peut pas avoir de communion avec Dieu, parce que c'est impossible. C'est impossible, on ne l'a pas mis au centre. C'est impossible.
Ça fait un peu penser à Job, qui, bon, a raison d'être fier, et puis c'était devenu de l'orgueil, et puis il a dû lutter longtemps avant de retrouver la sérénité, l'humilité. Quand on lit sa vie, bon,
c'est là l'analyse, ouais, ça pourrait être une fine analyse, oui. Mais ouais, des gens orgueilleux, ouais, je pense. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que le chemin de l'orgueil ne mène nulle part, et que le chemin de l'humilité mène à Dieu. L'orgueil l'éloigne de Dieu. Donc à partir du moment où on veut s'approcher de Dieu, qu'on veut vivre avec Dieu, l'orgueil s'en va d'emblée. D'emblée, parce que Dieu le chasse. La vie de Dieu chasse l'orgueil. Ça, c'est important à comprendre. Et donc, du coup, je vois toujours des visages un petit peu, des épaules voûtées. Or, Dieu veut qu'on respire. On est à l'âge, hein, je ne dis rien. Mais Dieu veut qu'on respire. On est des vainqueurs. On est des vainqueurs grâce à Dieu. Jésus a fait de nous des vainqueurs parce que l'idée est vainqueur. Et c'est là-dedans qu'il faut qu'on rentre. Oui, tu allais dire quelque chose, je t'ai coupé.
Oui, tu l'as dit à peu près, c'est la bonne fierté que tu viens de définir. Il y a un côté personnel là-dedans, pour être bien dans sa peau, sans orgueil et avec cette vraie humilité qui fait qu'on se sent bien. Mais il me semble qu'il y a aussi un côté extérieur. Si on porte de l'orgueil, on va faire fuir autour de nous. Et si on a cette vraie humilité, mais qui est fière, qui est de la fierté de notre Dieu, je pense qu'on va pouvoir porter l'étendard de notre foi, parler de notre Sauveur, avoir un témoignage crédible, et acceptable, et même peut-être un peu attirant.
D'accord. Et je suis encore plus d'accord sur le dernier mot, attirant. C'est ce que Jésus est fait, il attire, je vous attire à moi. S'il veut être attiré, il est attirant. Oui, Philippe. Si, je vois que, oh là là, il y a plein de questions, mais je les vois d'ici, je les entends d'ici, tellement t'en as. Tellement. Ah, vas-y, Roger, excuse-moi.
Oui, parce qu'on ne se libère pas de l'orgueil si on ne passe pas par la conversion.
Se libérer de l'orgueil sans passer par la conversion, bonne question. Permets-moi de réfléchir deux secondes quand même. Je ne vois pas en effet la possibilité de se libérer de l'orgueil sans passer par la conversion. Je n'en vois pas.
Il n'y a pas de chrétien orgueilleux.
Non, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est le contraire. Il n'y a pas de non-chrétien qui ne soit pas orgueilleux. C'est ça que tu veux dire.
C'est pas lié.
Que l'orgueil et la conversion. Lié comment tu veux dire.
Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont très.
Ils ne
sont
pas
orgueilleux
du tout.
Donc je ne pense pas qu'on peut.
Oui, oui.
Pas chrétien.
Non, alors la question, c'est. Alors j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il a posé la question, est-ce qu'on peut se libérer de l'orgueil ?
Non, il a dit lié.
Non, c'est bien ça.
Libéré, c'est bien ça.
Alors, est-ce qu'on est libéré de l'orgueil par la conversion ?
Donc l'orgueil. Donc je réponds à sa question. Voilà. Donc si tu es orgueilleux, tu es quelqu'un d'orgueilleux, ce qui est assez normal, naturellement il y a quand même de l'orgueil, parce que tu dis que l'orgueil de l'homme ne réincarnera pas lui, c'est pas pour rien s'il a dit ça. Oui, je pense que sans la conversion, ça m'est difficile, de, je ne vois pas trop le chemin qui est possible. Après, j'ai beau regard dans toutes les philosophies que je connaisse, c'est une émulation de l'homme, donc forcément de l'orgueil, de l'arrivée sans Dieu. De toute façon, s'il n'y a pas Dieu, il manque tout. Il manque tout.
Donc, et Gandhi était orgueilleux.
Comment ?
Gandhi était orgueilleux, j'ai pris un exemple.
Gandhi était-il orgueilleux ? Oui, il avait une certaine, je ne sais pas, je connais un peu la vie de Gandhi, hein, qui est passé par le catholicisme, je crois, on est de Gandhi, non ? Du moins. Hein.
Oui,
parce qu'il était en Angleterre. Donc, oui, il y a de l'orgueil, parce qu'il y a un orgueil de l'homme qui veut se lui-même se libérer, qui veut sa sainteté propre, donc sans Dieu. Donc c'est l'orgueil, ça. C'est ça l'orgueil.
Donc n'est-il pas orgueilleux de la part des chrétiens que de prétendre que eux seuls ne sont pas orgueilleux?
Non, ça c'est pas de l'orgueil, c'est faux. C'est faux parce que si c'était vrai, je ne serais pas en train de faire ça. Donc c'est faux. Non, il faut tout à fait distinguer les choses. Un chrétien orgueilleux, c'est un chrétien qui n'a pas compris que c'était que l'orgueil. Et il peut y avoir des chrétiens qui sont charnels, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire qu'ils marchent par la chair, donc forcément par l'orgueil. Mais ça, c'est le choix, justement, le choix du chrétien.
Oui, j'ai un texte là qui dit dans Timothée 3, à propos de, c'était à propos d'un surveillant, qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Et c'était, bon, on vient de me signaler ça sur la droite, là, que c'était le péché du diable, l'orgueil. Donc on comprend très bien que plus on s'éloigne de Dieu, plus on se remet dans les mains du diable, et plus l'orgueil revient. Et c'est appelé aussi le piège, aussi tout après. Hein, ça, c'est le piège du diable. C'est de nous amener à croire qu'on peut vivre sans Dieu. Finalement, c'est ça, c'est l'orgueil du diable, ça, il a voulu vivre indépendamment de Dieu, décider de dire comme lui, et bien ça c'est le risque. Donc non, pour répondre à la question, bien sûr que beaucoup de chrétiens sont hélas orgueilleux, mais c'est parce qu'ils quittent finalement la relation avec leur Dieu, ils se prennent pour quelqu'un, je sais bien.
Ouais. L'orgueil, c'est le piège, c'est bien dit ce passage, parce que c'est... En quoi c'est un piège, l'orgueil ? En quoi c'est un piège? C'est simple, on va avoir des besoins d'orgueil et on ne va plus avoir ta liberté de l'humilité. Parce qu'on ne peut pas être un ou l'autre. On peut être que l'un ou l'autre, je veux dire, on ne peut pas être les deux. Donc le piège de Satan, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est, quoi ça? Quel est le problème de Satan? Le Lucifer, le tir, c'est qu'il était beau, il était parfait, il était génial, il était extraordinaire. Et il s'est pris pour Dieu. Parce qu'il avait des qualités. Parce qu'il était absolument fabuleux. Alors, première chose, ne désirez pas d'être fabuleux, hein. C'est un piège. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont très très riches, comme Bill Gates et compagnie, des gens fortunés. Et vous savez quoi? Ils ne passent pas la fortune à leurs enfants. Ils ne passent pas leur fortune à leurs enfants. Parce que sinon, ils ont peur qu'ils deviennent n'importe quoi. Voilà. Alors, ne soyez pas désireux d'être autre chose que ce que vous êtes. Encore mieux. Hein ? Faire des progrès, c'est une chose. Mais, vous voyez, le problème de Satan, c'est qu'il était absolument fabuleux. Fils de l'aurore, tu avais des pouvoirs merveilleux, tu étais à côté de moi. Hein ? Lisez ce qui est dit sur Satan. C'est tir comme si, hein ? C'est extraordinaire. Et du coup, tu t'es énorgueilli. De regarder qui t'avait donné tout ça. Tout simplement. Qui t'avait donné tout ça? Moi. Eh bien, tu t'es... Non, voilà, t'as oublié. Boum. C'est le piège du diable. Oublié. Oublié les mythes. Donc, on oublie.
Dans la conversation de la courante, on parle parfois de légitime fierté. Je suis... un homme humble, je ne m'illusionne pas sur mes capacités, et puis un jour, comme dans la préparation d'un voyage, je suis contraint de faire une table dont je ne me sentais pas capable, j'y arrive, j'en suis heureux, j'ai la satisfaction de la réussite, donc je ressens une certaine fierté. Bon, mais est-ce que le piège, précisément, n'est pas d'oublier de prendre cette satisfaction avec simplicité, sans qu'elle nous conduise à nous valoriser? Et est-ce que si elle nous conduit à nous valoriser, elle ne générerait pas une forme d'orgueil? Question.
Je crois que la réponse est dans la question. La réponse est dans la question, non?
Oui, oui, oui.
T'es d'accord? Donc merci d'avoir répondu à ta question.
Vouloir en posséder plus, pardon, c'est
l'orgueil. Vouloir en posséder quoi? En plus de quoi?
Des biens, des...
Vouloir plus, non. Non. Vouloir être toujours mieux, avoir... Non. C'est pas forcément de l'orgueil. Par contre, l'amour de l'argent, l'amour des honneurs, l'amour de la reconnaissance des autres, là, on est en plein dedans. Si je veux posséder pour être au-dessus des autres, pour avoir la plus belle maison, pour avoir la Porsche que personne n'a, c'est moi ça, hein? Bon, et ben là, oui. C'est pour ça que j'en ai pas, d'ailleurs. Mais non, mais c'est aussi simple que ça, hein? Sagesse de Dieu et dépasse nettement la nôtre. Parce que nous, on voudrait des choses que Dieu ne nous donne pas. Parce que justement, il prend soin de nous.